de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui, Morgane Guiriec et Anne Albertson à Washington.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, les militants de Boko Haram ont enlevé au moins 60 personnes dans un raid transfrontalier au Cameroun.
En RDC, l'opposition appelle à manifester aujourd'hui contre tout changement de la loi électorale. C'est dans ce contexte que Vital Kamerhe affirme avoir été encerclé par les forces de l'ordre au siège de son parti.
Le major est venu à la tête d'un peloton et il nous a enfermés avec une chaîne et cadenas et ils sont là devant nous lourdement armés.
Au Niger, une marche de l'opposition a été supprimée dimanche par des tirs de gaz lacrymogène.
Nous reviendrons sur les manifestations contre les caricatures du prophète Mahomet qui ont fait au moins 10 morts ce week-end au Niger.
L'épidémie d'Ebola est officiellement terminée au Mali et en Guinée, les cours reprennent alors que la fièvre hémorragique continue de sévir.
Dans le journal de la CAN, les matchs du groupe B hier et la RDC tenue en échec un partout par la Zambie.
Encaisser un but comme ça dès la première minute, c'est pas ce qu'on avait voulu. On a fait une très mauvaise entame. On a rectifié en deuxième mi-temps en mettant un petit peu de rythme.
Mais avant, le journal.
Incident la nuit passée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, président national de l'UNC, affirme avoir été encerclé par les forces de l'ordre alors qu'il tenait une réunion au siège de son parti. Intervention qui aurait eu lieu alors que l'opposant appelle à manifester aujourd'hui contre toute modification de la loi électorale.
Nous sommes venus, Maître Muyambo, moi-même, le président de SCODE, pour venir travailler parce que nous avons planifié une marche aujourd'hui pour défendre la démocratie. Et voilà, à 1h du matin, pendant que nous étions à l'intérieur, un major est venu à la tête d'un peloton et il nous a enfermés avec une chaîne et cadenas et ils sont là devant nous, lourdement armés. Nous ne savons pas quelles autres manœuvres ils vont faire après et nous ne voulons pas qu'ils inventent des histoires d'eux-mêmes. Ils peuvent vous dire, bon, on a trouvé les armes, les munitions. Ils étaient en train de planifier un coup. Et tout. On sait comment ça se passe dans ce pays. Ils peuvent aussi nous blesser. Ils peuvent jeter une grenade, pourquoi pas. Ils peuvent nous asphyxier avec l'acrymogène.
Et dans ce contexte, la manifestation tient toujours ?
Mais oui, le peuple congolais a été invité massivement aujourd'hui à défendre ses droits. Et on n'a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit. Nous ne sommes là, on n'a dérangé personne. Nous sommes en train de défendre un droit fondamental, la liberté.
Vital Kamerhe, président du parti UNC en RDC.
Les militants de Boko Haram ont enlevé au moins 60 personnes dans un raid transfrontalier au Cameroun, ont annoncé des officiels camerounais. Henri Francisque nous en dit plus.
Selon le porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Chiroma, 3 personnes ont été tuées et 80 maisons détruites dans l'attaque d'hier dans des villages de l'extrême nord du Cameroun. L'agence de nouvelles Reuters cite un officier supérieur de l'armée disant que la majorité des personnes enlevées sont des enfants âgés de 10 à 15 ans. Le raid survient au lendemain de l'envoi de plusieurs milliers de soldats tchadiens au Cameroun pour aider à combattre Boko Haram. Ces militaires seront déployés dans la zone frontalière entre le Cameroun et le Nigeria. L'AFP souligne que le Nigeria, qui n'arrive pas à stopper seul Boko Haram, a exprimé samedi un soutien conditionnel à la perspective de l'arrivée de soldats tchadiens sur son territoire. Tout soutien à nos opérations sera bienvenu, mais il doit se conformer à nos propres opérations en cours, étant donné qu'il s'agit du territoire nigérian, a déclaré Chris Olu Kolade, porte-parole de l'armée nigériane. Auparavant, un attentat suicide à Posticum, une ville du nord du Nigeria, a fait au moins 4 morts et 25 blessés, selon une source officielle. Personne n'a immédiatement revendiqué la responsabilité de cet attentat, mais les autorités locales soupçonnent la secte radicale Boko Haram. Le Nigeria est à moins d'un mois d'une élection présidentielle dont la tenue est incertaine dans les États du Nord-Est, où le groupe islamiste est très actif. Beaucoup de Nigériens accusent le président sortant Goodluck Jonathan, candidat à la réélection, de n'avoir pas fait assez pour mettre un terme au règne de terreur de Boko Haram.
Explosion à Gao, dans le nord du Mali. Un enfant de 8 ans a été blessé dimanche par un engin explosif abandonné, indique l'AFP, citant un responsable militaire malien et un habitant de cette ville.
Au Niger, une marche de l'opposition qui voulait dénoncer la mauvaise gouvernance a été supprimée dimanche par des tirs de gaz lacrymogène. La police a arrêté au moins 90 militants de l'opposition, selon le gouverneur de Niamey, Amidou Garba, cité par l'AFP. Chérubin Dorcil fait le point.
Des radios et télévisions locales font état de la présence de plusieurs dirigeants de l'opposition parmi les personnes arrêtées par la police. Avant même le début de la marche, signale l'AFP, le porte-parole de l'opposition nigérienne, Ousseini Salatou, a été interpellé à son domicile. Après les émeutes en réaction à la publication d'une caricature du prophète Mohammed dans la revue Charlie Hebdo, émeutes ayant fait 10 morts vendredi et samedi à Niamey et à Zinder, le gouvernement du président Mahamadou Issoufou n'a pris aucune chance. D'abord, le gouvernorat de Niamey annonce l'interdiction de la manifestation de l'opposition, planifiée longtemps avant les protestations contre Charlie Hebdo. Et quand un groupe de militants de l'opposition tente de se rassembler dimanche matin, ils sont accueillis par des tirs de gaz lacrymogènes. Selon l'AFP, les manifestants ont riposté en jetant des pierres sur les policiers et en brûlant des pneus. Mais la situation est rentrée dans l'ordre au bout de quelques heures.
Au Niger toujours, plus de 300 chrétiens étaient toujours sous protection militaire dimanche soir à Zinder. C'est ce qu'indique l'AFP, citant une source humanitaire. De violentes manifestations contre la caricature de Mahomet en une de Charlie Hebdo y avaient fait 5 morts vendredi.
En RCA, le puissant chef anti-Balaka, le général Andilo, recherché par la justice, a été finalement capturé ce samedi par les soldats camerounais de la MINUSCA à Bouka, dans la préfecture d'Ouham. Selon la cour d'appel de Bangui Rodrigue, Gaibona, alias Général Andilo, a été interpellé au cours d'un combat opposant ses hommes au bataillon camerounais. Plusieurs chefs d'accusation pèsent sur le réputé chef anti-Balaka, Maurice Dibert Dolé, procureur général près de la cour d'appel de Bangui.
Monsieur Gaibona Rodrigue, alias Général Andilo, est poursuivi pour multiples infractions d'assassinat, de rébellion, d'association de malfaiteurs, de détention illégale d'armes de guerre, de viol, de complicité de viol, de pillage et plusieurs autres infractions, bien évidemment, dont l'appel à témoins que nous venons de lancer pour le faire manifester.
De son côté, la coordination des anti-Balaka dénonce une nouvelle volonté de compromettre la paix en Centrafrique. Son porte-parole, Igor Lamaka, met en garde contre une justice, à deux vitesses.
Ce n'est pas non plus lors d'un combat qu'il a été arrêté. Il a été arrêté dans un petit cabaret dans la ville de Bouka. La révolution populaire dit anti-Balaka s'est transformée aujourd'hui en parti politique. Nous dénonçons là le désordre que veulent nous installer encore et maintenir le pays dans le chaos par la force internationale. Pas de justice à double vitesse. Nous voulons la paix au nom des enfants de ce pays.
Jusqu'à son arrestation, le général Andilo n'était pas sous le coup d'un mandat d'arrêt international, mais selon le procureur général, les faits qui lui sont reprochés peuvent aussi relever de la compétence de la CPI. En attendant, une information judiciaire est ouverte par la justice centrafricaine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président ukrainien aurait rejeté un plan de paix proposé par son homologue russe, Vladimir Poutine. C'est du moins ce qu'affirment des médias russes qui ajoutent que l'Ukraine a repris les bombardements. Les autorités ukrainiennes n'ont pas commenté.
Lutte contre les djihadistes de l'État islamique, une réunion avec les pays membres de la coalition contre l'organisation terroriste se tiendra jeudi à Londres. Une vingtaine de ministres des Affaires étrangères, y compris de pays arabes, doivent y participer. D'après Washington, le secrétaire d'État américain John Kerry co-présidera la rencontre avec son homologue.
Nucléaire iranien, les entretiens d'hier à Genève ont été sérieux et utiles. Sous l'égide de l'Union européenne, les discussions rassemblaient les directeurs politiques des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Chine, de la Russie, de la France et de l'Allemagne et les représentants de Téhéran.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. Les premiers matchs du groupe B ont eu lieu hier et l'Algérie favorite fait son entrée dans la compétition ce lundi. Ce lundi matin, les choses sont claires dans le groupe B. Toutes les équipes sont à égalité avec un point chacune. Les voisins zambiens et congolais se sont retrouvés sur la pelouse à Ebebiyin. Et les choses n'ont pas traîné avec une ouverture du score dès la deuxième minute pour les zambiens. Le compte-rendu de ce match sur place avec Thierry Kambundi.
Les léopards de la RDC peuvent nourrir des regrets sur ce match dont ils ont dominé la majeure partie. Cueillis à froid par les Chipolopolo Boys de la Zambie qui ont ouvert la marque dès la deuxième minute par Given Singuluma, attaquant du tout-puissant Mazembe Anglebert, les Congolais ont vite réagi dans les jeux, dominant une équipe zambienne moins inspirée et repliée derrière. Le sélectionneur des Chipolopolo Boys a d'ailleurs reconnu que son équipe a mal joué. Onur Jansa.
I think what didn't work well for us is maybe we were a bit careless on the passes.
Bon, je crois qu'on n'était pas bien dans la façon comment on a passé le ballon. On a facilité le jeu pour l'équipe de Congo, alors ils ont passé bien le ballon, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment pu faire un bon match.
Jean-Florent Ibengué-Ikwangé lui souligne la mauvaise entame et l'inefficacité de ses poulains malgré l'égalisation de Yannick Bolasie à la 66e minute.
Donc c'est un but comme ça dès la première minute. Et c'est pas ce qu'on avait voulu. On a fait une très mauvaise entame. On a rectifié en deuxième mi-temps en mettant un petit peu de rythme. On est revenu au score, mais on est déçu du résultat, c'est sûr.
Les deux voisins se neutralisent donc et espèrent se relancer à la prochaine journée. Depuis Ebébéine, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour La Voix de l'Amérique.
Autre match nul hier soir dans ce groupe, la Tunisie face au Cap-Vert. Monser avait ouvert le score pour les Aigles de Carthage à la 70e minute, mais Eldon a égalisé sur pénalty pour les Requins Bleus. Score final 1-1. On écoute le buteur tunisien Mohamed Monser.
Alhamdoulilah, on a fait un bon match. Je pense que le Cap Vert, c'est une bonne équipe. Inch'Allah, le prochain match, on va faire le max pour gagner, Inch'Allah.
Mohamed Monser, milieu de terrain tunisien. Côté capverdien, écoutons Riyad Mendes, pas très satisfait de la performance de son équipe.
Et nos occasions en première mi-temps, après voilà, il marque un but. On devait recourir dans le score. On a réussi à revenir, j'ai envie de dire tant mieux, parce que sinon on allait avoir beaucoup de regrets, parce que ce match-là on doit la gagner. Ouais. Mais nous on veut vraiment passer dans cette groupe, parce que je pense qu'on a de la qualité pour passer. Donc on va essayer. Mais maintenant je pense qu'il va falloir qu'on commence à marquer des buts, parce que sinon on va pas gagner les matchs.
Riyad Mendes, joueur capverdien. Au classement provisoire de ce groupe B, toutes les équipes sont à égalité avec un point. Prochain match dans ce groupe, Tunisie-Zambie et RDC. Cap Vert. Non, ne me teste pas, non, j'ai la balle, ne me teste pas. Écoute la foule crier qu'on va gagner. Le journal de la CAN sur VOA Afrique, place au match du groupe C ce lundi à 16h, temps universel, Ghana-Sénégal. Victime d'une crise de paludisme, Asamoah Gyan ne s'est pas entraîné ce dimanche. L'attaquant vedette du Ghana est incertain pour la rencontre. Et surtout, le match tant attendu à 19h, temps universel, Afrique du Sud-Algérie. Le 8e de finaliste de la dernière Coupe du Monde est favori pour ce tournoi. Mais attention, Christian Gourcuff, le sélectionneur de l'Algérie, a estimé hier en conférence de presse que ce serait manquer de respect vis-à-vis de l'Afrique du Sud et des autres adversaires de s'estimer favori. Analyse tout de suite des forces et faiblesses des Fenex algériens avec le fameux coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonjour. Auréolée par une Coupe du Monde époustouflante au Brésil l'été dernier, l'équipe d'Algérie entre en compétition ce soir dans la peau du favori indiscutable pour son match d'ouverture de la poule de la mort contre l'Afrique du Sud. Si tous les spécialistes s'accordent sur la qualité de l'équipe, la plus impressionnante que le pays ait alignée depuis la Dream Team de 1982-84 avec ses Majers, Assad, Belloumi et autres Merzekans, il convient de préciser que le CRU actuel a considérablement progressé dans des domaines jadis négligés. Certes, les héros du mondial et Fayol sont restés inégalables au niveau de la technique individuelle et collective et sur fond de passe à 10, comme l'Allemagne put le constater à ses dépens à Gironde en 1982. Et même si les artistes actuels, les Brahimi et Feghouli, dessinent de temps en temps sur la pelouse des arabesques capables d'ébouriffer le défenseur le plus teigneux, la force de l'équipe algérienne repose désormais sur un équilibre parfait dans toutes les lignes qui associe avec bonheur la technique, le physique, la discipline tactique, le mental et le plaisir de jouer. Vous l'avez compris, l'époque de l'art pour l'art est révolue, place à l'art et au métier pour le résultat. Il reste donc aux Sud-Africains, eux aussi en phase ascendante, à montrer aux Algériens qu'il n'est jamais aisé de jouer dans la peau d'un favori. À demain.
À suivre mardi, les rencontres du groupe D à Malabo avec la Côte d'Ivoire contre la Guinée et le Mali face au Cameroun. C'est tout pour ce journal de la CAN. Prochain point sur la compétition, ce sera ce soir dans Le Monde Aujourd'hui. Et vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre site internet www.voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour. Nous mettons le cap sur le Niger. Au moins 10 morts ce week-end dans des manifestations de protestation contre les caricatures du prophète Mohamed, publiées par l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo. Les protestataires dénonçaient aussi la participation du président Mamadou Issoufou à la marche contre le terrorisme organisé par la France après l'attaque du siège de Charlie Hebdo et la prise d'otages dans un supermarché juif de Paris. Les manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs villes, dont Niamey, la capitale, ont entraîné d'importants dégâts matériels. Plusieurs lieux de culte chrétiens ont été vandalisés. Retour sur ces dérapages avec Abdoul Razak Idrissa, notre correspondant à Niamey.
Les manifestations ont tellement été violentes que le chef de l'État était obligé de s'adresser à la nation à travers un message radio-télévisé.
Mes chers concitoyens, me suis-je rendu en France ?
Issoufou Mahamadou a appelé au calme sans pour autant présenter, comme beaucoup s'y attendaient, des excuses après ses propos « Nous sommes tous Charlie » prononcés en France en marge de la marche républicaine du dimanche 11 janvier 2015. Abdul Moumouni Ousmane, membre d'un collectif de la société civile dénommé « Sauvons le Niger ».
Il aurait fallu que le président de la République essaye de donner des réponses très précises, au moins au premier point relativement à la charlisation, au fait d'avoir été Charlie, au fait de s'être détaché d'un certain nombre de valeurs très chères aux Nigériens. Et donc, il aurait fallu qu'il réponde ce qu'il n'a pas fait malheureusement.
La tension avait relativement baissé quelques heures seulement avant le message du chef de l'État et dimanche matin, une manifestation de l'opposition programmée de longue date et interdite la veille était sur le point de se tenir quand intervenue la police pour disperser les foules. Ce fut encore alors les mêmes scènes de violence dans la capitale Niamey. Hamidou Garba, gouverneur de la région de Niamey, dresse un bilan provisoire de deux journées de quasi-insurrection.
Le samedi 17 janvier 2015, nous avons enregistré 5 morts, dont 3 calcinés, 76 blessés, 189 manifestants ont été interpellés. 2 véhicules de la police nationale ont été incendiés. Plusieurs lieux de culte religieux, comme les églises, des hôtels et des bars, ont été sauvagement saccagés et brûlés. 15 familles chrétiennes se sont retrouvées dans la rue car leurs domiciles ont été endommagés. Pour ce jour dimanche, 18 janvier 2015, fort heureusement, on ne dénote aucun blessé ni aucun mort. Mais par contre, nous avons interpellé 90 manifestants et 2 véhicules transportant des pneus. Pour les 2 jours de manifestation, nous avons interpellé 279 manifestants et l'enquête est en cours.
Il faut noter que si les leaders de l'opposition ont maintenu et lancé des appels à la mobilisation pour leurs manifestations interdites, les associations islamiques à l'origine de l'appel à manifester samedi ont, après l'interdiction des autorités, demandé aux populations de ne pas sortir. Mais elles n'ont pas été écoutées, ce qui a conduit au chaos. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Et nous partons maintenant en Guinée. Élèves et étudiants sont invités à reprendre les cours ce lundi, alors que la fièvre hémorragique à virus Ebola sévit toujours dans le pays. Dans ce contexte de crise sanitaire, les parents d'élèves ne sont pas rassurés, nous dit Zakaria Camara, notre correspondant sur place.
Pas suffisamment de temps pour une bonne reprise des cours, se plaignent certains parents d'élèves. D'autres parlent de manque de moyens, de l'argent pour l'achat des fournitures scolaires.
C'est le moment qui est mal indiqué. Pour celui qui connaît un peu le niveau de vie du Guinée, on vit au jour le jour. Je crois qu'il serait mieux qu'on attende la fin du mois pour pouvoir proclamer. Mais maintenant, là, avec la date du 19, les parents vont se retrouver dans d'énormes difficultés.
L'ouverture des classes est annoncée dans un contexte de crise sanitaire. Oumar Konaté ne compte pas envoyer ses enfants à l'école. Il ne croit pas que les mesures soient suffisantes pour mieux gérer d'éventuelles situations sanitaires dans les établissements.
Comment moi je ne suis pas prêt? Parce que si un enfant, par exemple, arrive à vomir à l'école ou chose, on vient, on ne cherche même pas à comprendre. Les gens ne vont même pas l'approcher. On appelle les gens là, on vient, on le récupère, on l'envoie.
et toi tu n'auras plus accès à ton enfant.
La peur des parents et du côté des encadreurs, on affirme avoir pris toutes les dispositions pour éviter des contaminations. Amara Balato Keita, proviseur du lycée Kipé.
Mon école a transporté tous les kits qui sont là. Nous avons reçu près de 26 bidons à robinet avec les petits seaux et les sièges pour quand même éviter Ebola ici, pour le lavage des mains.
Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Grande première à Brazzaville. L'opposition s'est réunie la semaine dernière au palais des congrès pour mettre en place une démarche contre le changement de constitution. Même certaines formations politiques alliées au gouvernement, telles que le MCDDI, le RDD ou l'UP, étaient là pour dire à leur partenaire au pouvoir, le PCT, de ne pas changer la constitution. De Brazzaville, notre correspondante Gwélan Goussou.
Le rang des anti-changements de la Constitution se resserre. La semaine dernière, 45 partis, groupements et individualités politiques ont signé un engagement à Brazzaville pour faire bloc contre ceux qui prônent le changement de Constitution. Jamais l'opposition congolaise n'a été aussi unie sur de telles questions. Sur le temps que peut durer ce rassemblement, Gilda Mounsara, du mouvement contre le changement de l'ordre constitutionnel, répond.
Vous avez là la preuve que nous sommes capables de nous unir, de mettre de côté toutes les divergences, que nous avons des points de convergence. Et là, nous pensons que nous devons écrire l'histoire de notre pays et cela nous invite à nous mettre ensemble. Et aujourd'hui, nous avons donné la preuve que nous pouvons nous asseoir autour d'une table pour le bien-être de notre pays, pour le bien-être des Congolais.
Clément Mirassa, Pascal Tatimabiala, Guy Romé Kimfutia ou Mathias Nzon, ils étaient tous là. Certains alliés du pouvoir comme l'UP de l'ancien ministre Martin Bemba ou le RDD de l'ancien chef de l'État Jacques-Joshua Yombi Opango ont également rejoint le bloc. Même le MCDI de Feu Bernard Colella, principal allié du Parti Congolais du Travail au pouvoir, a été présent. Paul-Marie Pouélé de la plateforme Sauvons le Congo est au centre de cette initiative. On donne ici les raisons.
Rassembler toutes les forces politiques et de la société civile qui se sont opposées au changement de constitution dans notre pays. Il a fallu les rassembler pour que tous nous ayons le même argumentaire, que nous ayons la même vision et que s'il y a à discuter avec le pouvoir, que nous allons justement en rang serré. Le message il est très clair, tous rassemblés pour dire non à un troisième mandat du président Sassou, non au changement de constitution, non surtout à une élection truquée en 2016. Nous avons besoin de mettre sur pied une commission électorale véritablement indépendante. Nous avons besoin qu'on mette sur pied un recensement consensuel qui va nous permettre d'avoir un corps électoral accepté par toutes les parties. Et au final, nous aurons une élection transparente, équitable, juste pour tout le monde.
Reste à voir jusqu'où peuvent aller ces opposants longtemps fragilisés par la question de leadership. Gwélan Goussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco avec Jacques Aristide. Bonjour Jacques.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
L'or ouest-africain intéresse une compagnie britannique.
Le groupe Acacia Mining, précédemment African Barrick Gold, cherche à acquérir et exploiter des mines d'or au Sénégal, Mali et Ghana en vue d'étendre ses activités en Afrique de l'Ouest, rapporte Reuters, citant le directeur général de l'entreprise, Brad Gordon. La compagnie possède 3 mines et des projets d'exploration en Tanzanie. Acacia Mining est également présent au Burkina Faso et Kenya. Après une forte chute en 3 ans, le cours de l'or s'est rapproché du seuil critique déclenchant une nouvelle vague de réduction de la production, des fermetures de mines et des pertes d'emplois.
En Libye, la Banque centrale préconise des mesures d'austérité.
L'institution a fait état d'un déficit budgétaire de 18,6 milliards de dollars en 2014 et a donc recommandé cette politique d'austérité afin de le réduire, selon l'AFP. Dans un communiqué, la Banque centrale libyenne a qualifié les mesures d'urgentes et de douloureuses mais nécessaires, d'après elle, pour mieux gérer les dépenses du pays et répondre aux besoins quotidiens de la population, par ailleurs confrontée à un grand chaos sécuritaire. La chute des revenus est due notamment à l'effondrement de la production pétrolière en raison des combats violents entre milices depuis la chute de Muammar Kadhafi.
Et en Côte d'Ivoire, une bonne nouvelle pour les jeunes agriculteurs?
Eh bien, le Conseil du Café Cacao vient de lancer un projet d'1,7 milliard de francs CFA à l'intention de 1000 jeunes ivoiriens. Ils seront appelés à créer, sur une période de 4 ans, de plantation de café cacao et à diversifier leurs revenus à travers l'agriculture vivrière, l'apiculture, la pisciculture et les savonneries à base de coque de cacao. L'idée derrière, c'est également de combattre le phénomène de vieillissement dans le domaine café cacao en Côte d'Ivoire, d'après les autorités.
Voilà pour la Minute Éco avec Jacques Aristide. Merci. On passe à la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgan. Ryan Tedder est sûrement l'homme le plus busy du showbiz ces derniers temps, le plus occupé. Mais écoute, le chanteur du groupe One Republic écrit et produit des chansons pour beaucoup d'artistes. On l'écoute ce matin dans Feel Again. Hope that you fall in love and it hurts so bad.
Ryan Tedder est connu pour avoir notamment collaboré avec Timbaland pour les singles Apologize et Marching On, avec Beyoncé pour Halo ou encore Leona Lewis pour Bleeding Love.
Oui, Morgan, un artiste talentueux. Ryan est né à Tulsa, Oklahoma, dans une famille très religieuse. Son père l'a très vite initié à la musique et il commence à jouer du piano à l'âge de 3 ans, Morgan. Il commence à chanter à l'âge de 12 ans en imitant ses chanteurs favoris, Peter Gabriel, Sting et Stevie Wonder.
Ryan Tedder, Feeling Again. Merci, Roger.
Bonne journée, Morgan.
Roger Muntou que vous retrouvez dans le RM Show tous les soirs à 20h temps universel. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Albertson à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriac au micro et je vous souhaite une excellente journée.